Merci et passons maintenant à la séance de questions.
Mesdames et messieurs, si vous voulez poser des questions, vous pouvez utiliser le clavardage. Pour poser des questions, vous pouvez utiliser l'outil de clavardage. Monsieur Cunningham a reçu les questions d'avance par rapport à Riviera. Oui, merci Stéphane. Bonjour à tous. Il y a beaucoup de questions par rapport à Riviera. Laissez-moi commencer en disant que nous déplorons la perte des vies en ce qui a trait aux soins dans les installations de Riviera à travers tout le pays. Alors, bien entendu, clairement, ce n'est pas un problème seulement relié à Riviera. Il semble que ça se produit à tous les niveaux et nous avons très hâte d'établir un dialogue public qui va être nécessaire pour les politiques publiques, à savoir comment nous allons prendre soin de la population des personnes âgées pour que cette population ait tous les soins requis. Alors, ce sera à voir quelle sera la décision de la décision publique au niveau privé et public. Nous croyons que PSP et les investisseurs tels que nous sont les sources idéales de capital privé. S'il y avait un besoin de capital privé, étant donné notre profil, notre engagement envers la gouvernance et les meilleures pratiques pour les bénéfices à long terme. Alors, si il y a un rôle que nous pouvons jouer, on est intéressé, et si Riviera fait partie de la discussion, quelle serait la meilleure solution dans ce secteur pour l'avenir? Nous avons été impliqués avec plusieurs entités gouvernementales, provinciales, pendant plusieurs années. Et donc, on a des portefeuilles en Ontario. Riviera a été impliqué avec des discussions avec les officiels de l'Ontario depuis plusieurs années pour mettre à jour, améliorer les installations qui sont trop vieilles ou dépassées, alors certains foyers, alors et il y a une clause grand-père à cet effet. Bon, alors c'était difficile en tant que discussion en ce qui a trait au capital alloué pour rénover ces foyers pour qu'ils deviennent plus modernes. Et il y a eu un trop grand nombre de situations dans ces foyers vieillots où il y a des meubles parfois dans les corridors, etc. Tout cela est documenté. Alors, en ce qui a trait PSP et Riviera, Riviera à un conseil d'administration fort indépendant, incluant des médecins ou un médecin. Il y a également un directeur médical qui se concentre sur les soins sur une base régulière. Alors, ils se sont engagés à de meilleures pratiques de l'industrie. Nous avons été frustrés que PSP n'ait pas été en mesure de faire avancer les choses plus rapidement dans le redéveloppement de ces installations désuètes. Et je l'ai déjà dit l'année passée, si on ne croit pas qu'on sera en mesure de donner le niveau de soins requis dans ces installations, dans ces institutions qui répondent à nos normes, on ne devrait pas investir dans ce secteur. Mais actuellement, nous croyons qu'on fait partie de ce dialogue, c'est-à-dire, ce serait ça la meilleure solution, faire partie du dialogue. Voilà. Ça, c'est la question par rapport aux investissements dans les soins, résidences de soins. Par rapport à Pretium, oui. Alors, la préoccupation par rapport à Pretium, c'est une entreprise des États-Unis qui a des logements pour les familles et il y a la crise financière. Beaucoup de maisons ont dû être perdus ou revendus en raison des problèmes financiers. Il y a beaucoup de gens qui étaient propriétaires de plusieurs maisons. Ça crée une bulle financière. Et donc, il y a l'allocation de maisons unifamiliales qui était très, très populaire à certains moments. Parmi certains aspects, certaines tranches de la société, par exemple pour les milléniaux qui, eux, cherchaient ce genre de maison pour leurs enfants, mais qu'ils ne voulaient pas investir l'argent nécessaire pour l'achat d'une maison. Vous savez, le rêve de l'achat d'une maison est moins fort maintenant que parmi les générations antérieures. Alors, la location de maison unifamiliale est devenue une entreprise sur le marché. Ça fait partie du marché maintenant. Il y a une demande pour ça. Bon, on a été surpris d'avoir entendu de la controverse qui a été soulevée ici. On a vu des caractéristiques très semblables à d'autres locations d'appartements unifamiliaux. Alors, nous avons fait preuve de prudence, nous avons fait des vérifications auparavant. On était convaincus que les meilleures pratiques avaient été déployées à tous les niveaux. Lorsque la controverse a été soulevée par rapport à un niveau élevé de personnes qui avaient été expulsées, on a examiné la situation avec les gestionnaires et nous n'avons rien trouvé en termes de drapeau rouge. On n'a pas trouvé de signal d'alarme par rapport à ces pratiques qui seraient menées par les gestionnaires en disant est-ce qu'il y a vraiment eu des expulsions de ces locataires simplement à cause de la couleur de leur peau? Est-ce qu'il y a vraiment eu de la discrimination? Donc, il y a eu un sous-comité du Congrès qui a demandé à la compagnie de fournir de l'information par rapport à ces opérateurs de maisons unifamiliales de location aux États-Unis. Alors, on a demandé ces documents et à ce jour, il n'y a pas eu encore il n'y a pas eu suivi pour l'instant. On ne sait pas où ça s'en va. Ils n'ont pas témoigné devant ces institutions. Mais ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que nous avons quand même vérifié. Il n'y a pas eu d'expulsion de ce genre, selon notre examen. Durant la période des expulsions, et jusqu'à une certaine date, on a vérifié, il n'y a pas eu d'expulsions qui ont été émises entre juin et juillet. Donc, on a quand même fait preuve de diligence, on a fait preuve de prudence. On encourage les gestionnaires à discuter avec les locataires qui ont de la difficulté financière et on a confiance qu'on va faire la meilleure chose dans ce genre de situation. Prochaine question par rapport l'empreinte carbone et l'investissement dans les énergies vertes. Oui, ça c'est un thème très ample. Il y a eu beaucoup de questions en provenance de plusieurs endroits. Alors, laissez-moi tenter de répondre à tout cela. C'est une question très ample. Vous avez vu dans notre rapport sur l'investissement responsable, j'espère que tout le monde a pu lire ce rapport sur l'investissement responsable, ESG incluant les changements climatiques, c'est une partie importante de toutes les activités d'investissement qui sont nôtres. Alors, notre gestionnaire général est membre de notre comité d'investissement. Ce groupe, l'équipe d'investissement, est impliquée dans tous les investissements privés avant que ce soit effectué et après, pour identifier les problèmes éventuels en s'assurant que ce soit atténué et cela sur une base régulière pour assurer les pratiques exemplaires. Souvent, on va aider les équipes de gestionnaires pour adopter les meilleures pratiques. C'était le cas. Bon, alors, c'est ce que nous faisons au niveau de l'investissement. Et du côté public maintenant, nous favorisons l'implication, l'engagement, que ce soit à travers des groupes d'investisseurs où nous avons un plus grand impact. Occasionnellement, il y a des dialogues avec les gestionnaires des compagnies pour les aider à comprendre nos postures par rapport aux questions ESG, les critères ESG. Et on a eu beaucoup de succès jusqu'à maintenant pour aider ces équipes de gestionnaires. Tout ça, ça fait partie de notre approche pour investir dans des investissements durables. Donc, nous croyons très fortement que les compagnies, les sociétés qui ont adopté de meilleures pratiques en termes de critères ESG, donc environnement, social et la gouvernance, vont mieux réussir que les autres sociétés sur le long terme. Peu importe où vous êtes situé, dans le continuum énergie renouvelable versus énergie et maîtrise de carbone. Alors, on va davantage se concentrer sur les énergies vertes et nous pensons que les sociétés vont mieux réussir à travers le temps. Ainsi, nous voulons bien entendu investir dans ces secteurs verts. Nous pensons qu'il y aura de meilleurs bénéfices, non pas seulement en termes d'investissement, mais si on prend ces investissements et on les rend plus verts. Quand je dis vert, c'est que ce sont vraiment les meilleures pratiques. On veut aller vers les meilleures pratiques par rapport aux critères ESG pour obtenir le meilleur rendement. Nous n'avons pas d'exclusion d'activité à part quelques exceptions très fortes qui sont mentionnées dans notre mandat. Nous ne croyons pas qu'en désinvestissant, en excluant, ce serait la bonne approche. Je pense qu'il faut plutôt s'engager. Si on veut vraiment améliorer les choses, améliorer l'empreinte carbone, on va le faire en s'impliquant avec les compagnies d'énergie et les autres intervenants pour améliorer les pratiques pour réduire l'empreinte carbone. Le désinvestissement est une approche qui pourrait donner de meilleurs chiffres si on va désinvestir dans un secteur donné, mais ça n'améliore pas véritablement l'empreinte carbone totale. Alors, c'est quelqu'un qui est moins sensible à l'empreinte carbone, cette personne va acheter ses actifs et va continuer, tout simplement. Alors, nous pensons que si on est propriétaire, si on est un propriétaire engagé, un détenteur engagé, on peut vraiment mieux améliorer les choses pour réduire l'empreinte carbone, pour réduire les changements climatiques. Et il y a à peu près un an, on a fait partie de groupes de PDG qui encourageaient les compagnies, incluant nous, ici, à adhérer aux normes SASB et TCFD dans leur émission de rapport. L'intention, c'était d'avoir des rapports unifiés en ce qui a trait aux normes et aux métriques. Les gens, d'habitude, sont d'accord. C'est ce que l'on peut développer pour améliorer. Nous avons été transparents depuis assez longtemps et donc on peut faire des comparaisons entre plusieurs sociétés. Nous croyons véritablement que c'est la façon d'avancer pour que les sociétés, les compagnies individuelles de l'économie aillent dans la bonne direction en ce qui a trait au changement climatique. Et là, je me réfère aux critères ESG. Et donc, nous avons écrit par rapport à cela dans nos rapports. Il y a les normes ESB, il y a toutes les normes qui ont été tenues en compte. D'accord, merci. Prochaine question par rapport aux bureaux qui sont à Hong Kong et Londres, pardon, voilà. On parle de bureaux à Londres, bureaux à Hong Kong. Oui, alors, oui, nous avons des bureaux à Montréal, c'est notre bureau principal, à Londres, à New York et à Hong Kong. Et le quartier général est à Ottawa, où il n'y a que quelques personnes présentes. C'est une question intéressante. Étant donné la pandémie COVID-19, que va-t-il se passer avec l'utilisation des bureaux? Il y avait des questions sur le coût. Si on garde ces installations, ces bureaux, est-ce qu'on va rester à Londres? Va-t-on rester à Hong Kong? Alors, laissez-moi y répondre de deux façons. Pour Montréal, Londres et New York, nous avons fait des locations à long terme. Ce n'est pas beaucoup d'argent, comme vous voyez la taille totale de PSP, notre empreinte totale. Donc, ce n'est pas très significatif. Actuellement, il n'y a pas de problème avec ces bureaux. Alors, comment sera l'utilisation des bureaux après la pandémie? On ne prend pas de décision importante actuellement par rapport à ces loyers actuels, par rapport à ces espaces bureaux. Nous avons un plan avec les employés sur lequel nous avons travaillé depuis un an. On appelle ça un plan hybride. Ça va être une combinaison de télétravail que nous avons déjà fait depuis un an et demi. Et donc, nous voulons avoir la technologie pour permettre aux gens de faire du télétravail sur une base régulière. Mais ça va être mieux structuré dans l'avenir, puisque nous avons appris à télétravailler et on sait que ça fonctionne, même s'il y a certaines limites. Donc voilà, on a annoncé hier qu'on va remettre ça à janvier pour voir ce qui va se passer avec les variants de la COVID-19, quels seront les protocoles demandés. Voilà, donc en ce qui a trait à où nous sommes localisés, on continue à être engagé à rester là où nous avons des bureaux. Londres, bien sûr, est passé à travers le Brexit, ne fait pas partie de l'Union européenne, mais fait partie de l'Europe. C'est encore un centre financier important. Et c'est quand même un point important en relation à l'Europe. Nous avons déterminé que c'était notre centre européen et ça va probablement rester parce que c'est quand même une plaque tournante mondiale. Et le Brexit a changé un petit peu la situation, mais pas tellement. Hong Kong, bien entendu, a passé à travers des chamboulements. Il y a eu des manifestations, il y a eu la COVID, il y a eu des perturbations. Nous n'avons que 6 personnes à Hong Kong aujourd'hui. Nous avons des ambitions de croissance. On a étudié cela durant la pandémie. Alors, il y a quand même un élan là-bas. Donc, on est engagé à investir en Asie, augmenter notre empreinte, notre présence en Asie pour l'avenir, pour les activités économiques mondiales. Ça va augmenter. On doit faire partie de cela. Et nous avons un programme cette année où toutes nos classes d'actifs et les gens qui travaillent sur les actifs vont discuter et ce sera plus clair, à la fin de l'année par rapport aux investissements asiatiques. Nous sommes vraiment engagés à ce sens. Il y aura sûrement des nouvelles à ce sujet plus tard. Merci. Une question par rapport à la diversité au niveau de la gestion. Permettez-moi d'y répondre. Daniel pourra compléter. Nous avons été très, très fiers au conseil. Nous sommes un conseil où nous avons l'équité, autant d'hommes que de femmes. Alors, avec les directeurs, je pense que dans l'avenir prochain, nous aurons davantage de femmes que d'hommes. Et il y a déjà des représentants des groupes minoritaires. Donc, vraiment, nous encourageons les membres de l'exécutif de faire tout ce qui est possible pour plus d'inclusion, plus d'égalité, plus d'équité. La compagnie fait des progrès. Et donc, pour répondre à la question sur le groupe exécutif, voilà, on fait des efforts en ce sens. Nous avons la diversité des genres au niveau de l'équipe exécutive. Nous avons plusieurs femmes, la moitié à peu près, et on n'a pas encore peut-être autant de minorités visibles qu'on le souhaiterait. C'est quand même un objectif. Et vers le bas, vous avez les leaders seniors. Nous avons quand même fait pas mal de progrès à ce niveau-là pour l'avancement des femmes et pour les minorités visibles. Ce n'est pas encore tout à fait équilibré, mais on est dans la bonne direction. Ça va continuer à être un défi, pas seulement pour PSP, mais également pour toute l'industrie financière. Nous avons un programme d'inclusivité, de diversité très fort chez PSP. Alors moi, j'étais co-président de ce comité depuis 4 ans. Vraiment, on se concentre, on veut s'assurer d'avoir la diversité à tous les niveaux et de tout type à travers l'organisation. Nous avons des objectifs pour permettre cela. Et nous savons ce que nous devons faire. Laissez-moi simplement dire que, un, on est engagé en ce sens, et deuxièmement, c'est pas facile parce que tout le monde essaie de faire la même chose en fait, mais il y a quand même des petits défis, ça va prendre un certain temps. Voilà, une question sur la stratégie. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, une équipe de haut rendement? Comment atteindre cet objectif? Ah oui, c'est une question multifacette. Il y a plusieurs facettes à cette question. Comme vous l'avez dit, c'est une bonne transition à partir de la diversité. On parle d'une équipe de haut rendement, c'est une équipe diversifiée, une équipe où il y a une diversité de points de vue, une diversité d'expériences, une diversité de points de vue et d'expériences. Alors, les aspects de genre, d'ethnie, d'âge, d'éducation, tout cela est inclus. Alors, ça veut dire qu'on veut vraiment se concentrer là-dessus, incluant la diversité. Et nous avons des programmes de formation de leadership qui expliquent comment faire les choses. On parle de la façon de faire PSP, ça veut dire qu'on enseigne aux gens comment être un leader dans divers aspects de leur vie en termes de leadership, et nous voulons être cohérents à travers toute la société. Nous avons des paquets de rémunération et d'avantages. Par exemple, on peut faire du télétravail. C'est important pour attirer et retenir, garder les employés qui ont des besoins très divers et différents. Ils ont des attentes et ils ont des désirs par rapport à leur travail. Alors, nous travaillons avec tout cela pour faire en sorte que les gens puissent bénéficier, que nos gens puissent bénéficier. Il y a des choses très simples. S'assurer que les gens sachent comment diriger une réunion où tout le monde puisse parler, que tout le monde ait une voix. L'un des avantages du télétravail depuis plusieurs mois, c'est que les gens se sont habitués à utiliser l'option « lever la main ». Ça ne veut pas être donc la personne qui crie le plus fort dans la pièce et qui va toujours parler. Voilà, ce sont des outils importants. Et par rapport à l'image globale qui est dans la pièce, la diversité, ce n'est pas seulement qui est là, mais faire en sorte que leur voix soit entendue. On veut s'assurer d'avoir un bon mélange dans la pièce, une diversité, et on pourra encourager la participation. Et ça fait partie de l'équation. Prochaine question. Pour les allocations aux États-Unis, et ailleurs, y a-t-il des changements par rapport aux allocations? Pardon, c'est quoi le début? Pourriez-vous parler des allocations au Canada, aux États-Unis et à l'international, et y aura-t-il des changements dans les années qui viennent? Ah, les allocations, c'est dans le rapport annuel, donc vous pouvez voir toutes les infos qui sont là. L'intention pour l'avenir, comme je l'ai dit, c'est qu'il y aura une expansion de nos investissements en Asie. Il y aura une plus grande exposition par rapport à l'Asie, et ça va venir au détriment, si je puis utiliser ce mot-là, au détriment de la réallocation au Canada et aux États-Unis, en Amérique du Nord et en Europe. Donc, il y a un certain changement en ce sens. D'accord. Pourriez-vous parler de vos holdings en Chine? Oui, c'est quelque chose de minime. Et là, je vais parler de mémoire. Je pense que le chiffre, c'est moins de 1 milliard de dollars, les holdings en Chine, qui sont investis surtout dans la logistique. Et il y a encore un centre au détail, un retail center. Alors, c'est quelque chose qui peut être révisé pour des raisons assez évidentes. Alors, les investissements en immobilier en Asie, pour comprendre la dynamique asiatique, ça veut dire que vous allez participer à la croissance chinoise. Comment le faire avec différentes stratégies, différentes classes d'actifs? Ça fait partie de cet exercice de révision que nous allons faire cette année. Cet examen, quand je parlais de notre ambition vis-à-vis l'Asie, voilà de quoi je parlais. Mais si la question a trait à la compagnie immobilière en Chine, qui a des problèmes parce qu'elle a beaucoup de dettes. Nous, on n'est pas dans ce secteur-là. Nous, on est dans des constructions de condominiums et nous n'avons pas investi dans cet autre secteur. Actuellement, on ne voit pas de contagion à partir de ces problèmes, cet incident par rapport à un secteur donné dans lequel nous n'avons pas investi. Voilà. Mesdames et messieurs, si vous voulez poser la question, vous pouvez utiliser le clavardage. Veuillez utiliser le clavardage si vous avez des questions. Je pense que nous avons répondu à toutes les questions qui ont été reçues jusqu'à maintenant. Monsieur Klim, merci beaucoup. C'est un plaisir de pouvoir présenter à notre AGA. Et il y a eu des questions très bonnes. Je pense qu'on a quand même pu répondre à toutes ces questions qui sont très, très actuelles. On est à des moments difficiles. PSP est passé à travers depuis 18 mois, à travers la situation très bien. Et je pense qu'on est encore fort. On est optimiste par rapport à l'avenir. Et nous avons beaucoup d'appui de la part de nos intervenants. Et nous devons reconnaître les gens de l'équipe exécutive dirigée par Neil et par tout son personnel qui ont travaillé de manière exceptionnelle depuis 18 mois et ce qui nous a mené où nous sommes actuellement comparativement à il y a 20 ans. Alors, nous sommes très fiers de notre posture actuelle. Nous avons des opportunités. Merci beaucoup de vous être joints à nous. Merci à tous.